Délivrez-vous, une émission présentée par Sandra Mani
et Dominique Vallée.
Alors bonjour Sandra.
Bonjour Dominique.
Pour la première sur les nouvelles ondes, je vais te parler et vous parler d'un livre sur un auteur de bande dessinée qui s'appelle Steve Ditko. Et le titre du livre c'est Steve Ditko, l'artiste au masque, par Tristan Lapoussière. Et pas de jeu de mots sur son nom, je le connais.
J'allais le faire, mais bon, tu me coupes l'herbe sous le pied, comme d'hab, donc...
Et en plus, je le connais personnellement, il est vraiment très sympa. Alors, Tristan Lapoussière, déjà, on va parler un petit peu de l'auteur. C'est créateur de la revue Backup, qui est une revue sur les comics américains, parce que Steve Ditko, c'est un auteur de comics américains, principalement connu pour avoir été le créateur graphique de Spider-Man.
Ça, je connais. Parce que je te vois venir, tu vas dire oui, tu connais rien en bande dessinée, t'aimes pas ça. Ça, c'est un peu vrai. Par contre, Spider-Man, je connais.
Oui,
je dis pas que j'adore, mais je connais.
Oui, parce qu'il y a aussi eu des dessins animés, des films, et des parodies. Et donc, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit Spider-Man en couverture.
Mais franchement, quand on s'appelle Tristan Lapoussière, chasser les araignées, c'est pas important. Je voulais manger de mots.
Je lui dirai que t'as fait ça. Prochaine fois que je le vois. Mais allez bien. Alors, la couverture est de Sébastien Hayez, ou Hayez, je ne sais pas comment on doit dire, et donc elle représente Spider-Man, je ne connais pas Sébastien. Mais la couverture, j'aime bien, elle est assez sympa, et ils ont pris un peu de risque, parce que mettre un personnage Marvel en couverture, avec eux, ils sont parfois tatillons sur les droits. Alors, donc, comme je le disais, Steve Ditko, il est principalement connu pour avoir été créateur graphique de Spider-Man. Et même si on ne connaît rien en BD, comme toi Sandra, on connaît Spider-Man.
Rien, faut pas exagérer non plus.
Parce que, ne serait-ce que parce qu'il a eu plusieurs films sur le grand
bien
écran.
Bien sûr, on sait même que c'est un super-héros.
Ouais.
Pardon, un anti-héros.
Oui, c'est vrai aussi. Oui.
Un anti-héros.
Bon, il est un peu moins connu que Fishman, mais quand même. Bon, heureusement pour Steve Ditko, sa carrière ne s'est pas arrêtée à Spider-Man, parce qu'il a dessiné Spider-Man pendant 4 ans. Comme il a 89 ans, ça ferait pas beaucoup dans sa carrière. Alors, je vais vous parler un tout petit peu de Steve Ditko, mais après je vous parlerai surtout du livre. Donc Steve Ditko, il est né en novembre 1929, donc il a 89 ans, et il a commencé sa carrière chez plein de petits éditeurs américains qu'on connaît pas forcément, surtout le néophyte, dont Charlton, qui est un des plus connus, avant d'arriver chez Marvel, où là, l'aventure a vraiment commencé. Il a d'abord dessiné sa spécialité, c'était des courtes histoires fantastiques ou horreurs sous des scénarios de Stan Lee. Stan Lee que l'on peut voir en guest star dans tous les romans, dans tous les films Marvel portés à l'écran. Et bizarrement, pas Steve Ditko, pour des raisons que j'expliquerai par la suite. Y compris dans Spider-Man, parce que pourquoi Steve Ditko aurait pu apparaître dans Spider-Man aussi qu'en guest star, et c'est pas le cas. Et donc, il arrivait chez Marvel, il faisait principalement des histoires fantastiques et d'horreur, avec, pas des héros justement, des anti-héros, tu parlais d'anti-héros tout à l'heure.
Et Spider-Man.
La particularité de Steve Ditko, c'est que tous ces personnages semblaient un peu accablés par la malchance, par le destin, c'était des losers, pour simplifier. Et au départ, il devait rester cantonné à ça, parce que Stan Lee n'était pas très fan de son travail, pour tout dire. Mais seulement, à un moment donné, il devait sortir une histoire sur un personnage d'araignée. Et l'éditeur de Stan Lee, qui était aussi son oncle, lui a dit un héros avec une araignée, mais t'es fou, les gens détestent les araignées. Ce qui est assez vrai quand même, globalement, peu de gens sont fanatiques des araignées.
Bien sûr.
Et donc, Stan Lee, il a un peu remballé son truc, en disant, mon personnage, je ne peux pas le sortir.
Le suspense est grand. Et on est tous suspendus à tes lèvres.
Et il se trouve qu'à ce moment-là, le marché des bandes dessinées américaines était fluctuant et une revue allait fermer, faute de lecteurs, qui s'appelait Amazing Fantasy. Et comme c'était le dernier numéro qui était programmé, Stan Lee dit « C'est le dernier numéro, je peux balancer ce que je veux. De toute façon, si ça ne marche pas, on n'y ira rien, c'était le dernier numéro. » Et il demande à Steve Ditko de lui faire l'histoire de Spider-Man. Et donc, il fait une petite histoire de Spider-Man avec les origines de Spider-Man qui ont été portées à l'écran, où il se fait mordre par son araignée, il a des super-pouvoirs, il commence à gagner de l'argent avec ça. Il refuse d'arrêter un voleur qui finalement va tuer son oncle chez qui il vit et qui donne toute la trame principale des origines de Spider-Man qui ont fait le succès du personnage. Et pendant des mois, ils n'ont entendu plus parler parce que les résultats, les chiffres de vente, on les a 6 mois après. Et 6 mois après, quand ils reçoivent les chiffres de vente de Amazing Fantasy numéro 15, le dernier, ils s'aperçoivent que les ventes ont explosé. Et donc, ils décident de sortir une revue sur Spider-Man, toujours avec Steve Ditko. Alors ça, on va dire que c'est la version à peu près normale. Parce que Jack Kirby, l'autre grand créateur de comics, lui en a une autre. Je vous l'épargnerai parce que comme c'est un bouquin sur Steve Ditko, pas sur Jack Kirby, mais je sais qu'il y a une version alternative où Jack Kirby a lui-même créé un personnage qui s'appelait The Fly, qui aurait inspiré Spider-Man. Mais bon, après, Stan Lee a sa version, Steve Ditko a la sienne, Jack Kirby a la sienne. Mm-hmm. Parlons de la version de Steve Ditko et pas trop de celle des autres. Et donc ça, ce livre nous raconte les aventures de Steve Ditko chez Marvel, où il a créé aussi d'autres personnages, comment et pourquoi il s'est fâché avec Stan Lee, parce que Steve Ditko a une particularité qui a marqué toute sa carrière et toute sa vie, c'est qu'il est mordu d'une
théorie... Par une araignée.
Par une araignée, mais par une théorie sur l'objectivisme. Et l'objectivisme, c'est une théorie assez spéciale, mais qui a complètement changé sa carrière. Et notamment l'objectivisme, c'est quelque chose où l'égoïsme est assez important. C'est-à-dire qu'on doit d'abord faire travailler pour soi et travailler de façon totalement indépendante. Ce qui fait que Steve Ditko a toujours eu du mal dans ses relations avec ses éditeurs parce qu'il ne supportait pas les contraintes. Et les contraintes chez les grands éditeurs américains sont très importantes.
Plus qu'en France encore.
Ah oui, beaucoup plus, parce que en France, quand tu crées une bande dessinée, tu es le créateur, c'est toi qui as les droits sur le personnage. Aux États-Unis, tu crées... Ah oui. Steve Ditko donc, a co-créé Spider-Man, il n'a aucun droit sur Spider-Man. Il n'a rien touché sur, par exemple, tous les films qui ont été faits, il n'a rien touché.
Ah oui, ça c'est bon de le savoir, parce qu'on croit toujours que le créateur de l'ouvrage, hein, d'ailleurs, ouais. quel que soit l'ouvrage, touche des ponts d'or... Avec les produits dérivés, comme le film. Hein.
Oui, oui.
Et a priori, donc, aux États-Unis.
Pas pour les super-héros américains, en tout cas.
D'accord. Et d'accord, très intéressant.
En tout cas, pas les super-héros Marvel et DC Comics, pour qui les droits restent toujours à l'éditeur et pas au créateur. Après, il y a d'autres personnages, par exemple Walking Dead, les droits sont effectivement au créateur. Donc là, ils touchent de l'argent. Mais pas quand on est chez Marvel et DC. D'abord, d'un premier temps, Ditko a commencé à se rebeller avec Stan Lee parce qu'il ne voulait pas que les scénarios n'étaient pas d'accord, ce qui fait que Ditko a commencé à écrire les scénarios tout seul. Et ils étaient très marqués par l'objectivisme, ce qui fait que petit à petit, Spider-Man est devenu plus violent parce que l'objectivisme fait aussi qu'on se fait justice soi-même, c'est œil pour œil, dent pour dent. Je simplifie, on ne va pas faire une théorie sur l'objectivisme aujourd'hui. Il y a une opposition entre Stan Lee et lui parce qu'il ne voulait pas l'emmener le personnage au même endroit.
Et d'accord.
Qui a fait qu'après, ils sont fâchés et que, que Steve Ditko, lui, est reparti chez d'autres éditeurs. Il est parti chez DC Comics où il a créé d'autres personnages. Et à chaque fois, il s'est fâché avec cet éditeur. Le seul éditeur où il ne s'est jamais fâché, c'est Charlton, parce que Charlton le laissait tranquille. Il faisait ce qu'il voulait. Donc, il ne s'est pas fâché. Et petit à petit, il s'est un peu fait griller chez tout le monde. Et donc Tristan Lapoussière nous raconte tout son parcours, où on voit que petit à petit, tout en étant considéré comme un des grands anciens, un des grands créateurs des comics US, s'est trouvé de plus en plus reclus et exclu du métier, de par sa volonté de suivre l'objectivisme dans toute sa vie et dans toute sa carrière. Et il faut savoir qu'à 89 ans, il dessine toujours... Il publie toujours, mais que sur des petits supports, chez des petits éditeurs, parce que les grands éditeurs le font travailler de temps en temps, un peu comme pigiste, histoire de dire on a un peu de Steve Ditko dans nos pages, mais c'est tout.
Mais c'est peut-être un confort de vie pour lui maintenant, à 89 ans.
Je ne suis pas sûr, parce que c'est aussi... ça ne rapporte pas beaucoup d'argent, du coup.
À 89 ans, peut-être que sa carrière est derrière lui.
Oui, mais...
Sur le plan financier.
Oui, sans doute, mais comme ses principaux personnages, il n'a pas les droits... Du coup, il a les droits que sur des personnages qui rapportent rien. Alors, Pour information, quand même, Steve Ditko, il a créé Spider-Man, mais il a aussi créé des personnages dans Spider-Man très importants, comme le Bouffon Vert, le Lézard, Electro. Mais il a aussi, chez Marvel, créé Doctor Strange, qui a été adapté au cinéma aussi l'année dernière. Et là, en plus, c'est lui qui a eu l'idée. C'est-à-dire que c'est bien Stan Lee qui était aussi au scénario, mais c'est Steve Ditko qui a amené l'idée d'un personnage qui est une sorte de magicien avec des décors complètement ésotériques. Et Steve Ditko a, à l'instar de Jack Kirby, un style qu'on reconnaît au premier coup d'œil. C'est-à-dire que tous les gens qui aiment Steve Ditko pourront dire au premier moindre dessin, ça c'est du Ditko, sans problème. Comme Jack Kirby, on dit ça c'est du Kirby. Et il n'y a pas tant de dessinateurs dont on peut dire ça. Donc c'est vraiment un personnage important et complètement atypique. C'est un personnage qui, par exemple, ne donne aucune interview, jamais. Il parle pas de lui. Pourquoi Stan Lee apparaît dans tous les films Marvel? Parce que Stan Lee, c'est quelqu'un qui aime se montrer, qui aime se faire mousser, qui a créé sa propre légende. Alors, c'est un grand personnage des comics, mais il a su créer sa légende. Ditko, c'est totalement l'inverse. C'est quelqu'un qui ne parle pas, qui est taiseux, qui est dans son coin, qui veut pas de publicité. Donc, forcément, Ditko aurait toujours refusé d'apparaître au cinéma parce
Bien
qu'il veut
sûr.
pas se montrer. Et donc, je savais une partie de la carrière de Ditko, parce que je suis un peu féru de bande dessinée, mais grâce à Tristan la Poussière, j'ai pu aller beaucoup plus loin, découvrir aussi des tas de personnages que je ne connaissais pas de Steve Ditko, des pans entiers de sa carrière, notamment en savoir plus sur l'objectivisme, parce que j'étais totalement néophyte, et de comprendre les implications et les imbrications de son implication dans l'objectivisme par rapport à sa vie et à sa carrière. Et franchement, j'ai dévoré le bouquin comme si c'était un polar où on veut savoir à tout prix qui a commis le crime et lire jusqu'à la dernière ligne. C'était passionnant et je remercie Tristan la Poussière et les Moutons Électriques d'avoir fait ce bouquin-là.
Les moutons électriques, la maison d'édition.
Qui est la maison d'édition de Steve Ditko, l'artiste au masque, et notamment pourquoi l'artiste au masque, c'est expliqué dans le bouquin, où Steve Ditko, quasiment tous ses personnages, étaient derrière des masques, ce qui est assez courant pour les super-héros, mais les masques étaient des fois des masques pour des masques, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs couches de masques parce que chacun avait sa personnalité bien particulière, et c'était vraiment. Tristan réussit à décortiquer ça dans l'œuvre de Ditko, et quelque chose qui m'avait vraiment échappé et qui était vraiment pertinent, c'est une étude du personnage et des héros créés par l'auteur, ce qui d'ailleurs. Assez fréquent chez les auteurs, souvent on dit que un grand auteur écrit toujours la même histoire. Et c'est un peu vrai chez Ditko, il a décliné le même genre de personnage à travers différentes versions.
À travers différents masques,
À travers différents
si on peut
masques.
dire.
C'est d'ailleurs lui qui a voulu que Spider-Man ait une identité secrète. Au départ, c'était pas évident qu'il en ait une. Parce
Ah oui, d'accord.
que tous les super-héros n'ont pas d'identité secrète. Par exemple, les Quatre Fantastiques. Créés par Stan Lee, n'ont pas d'identité secrète.
Superman non plus, il me
Ah
semble.
si, Superman en a une, mais.
Ah d'accord.
Oui, c'est un peu idiot parce que l'identité secrète, lui, il enlève ses lunettes et personne ne reconnaît que c'est le même
Voilà,
personnage.
c'est pour ça que je te dis ça. C'est pour ça que ça m'a étonnée, moi qui n'aime pas trop ce genre de film. Oui, pour moi, il n'a pas d'identité
Oui,
secrète.
si,
Maintenant,
c'est quand il est en civil, il a des lunettes et quand il est en Superman, il n'a pas de lunettes
voilà, c'est
et
tout.
personne ne le reconnaît.
Voilà.
Comme quoi, les gens qui n'ont pas de lunettes peuvent être aussi bigleux que ce qu'on en a finalement.
En tout cas, tu nous... Bon, je ne suis pas certaine de dévorer le livre, mais par contre, ce que j'ai aimé dans ta présentation, c'est que tu nous as présenté un homme humble, intéressant,
Oui.
qui... Oui, si, qui pour les adeptes, je pense, donne envie de le découvrir encore plus.
En fait, c'est un artiste sans concession, et cette absence de concession a fait aussi qu'il a été un peu mis à l'écart par la profession. Et donc, c'est aussi une des particularités de Ditko, parce que il n'a jamais fait de concession à personne, et quoi que ça a pu lui en coûter, et ça lui a coûté beaucoup.
Et c'est beau, hein? C'est
Oui.
beau ça, de jamais renoncer à son idéal, toujours suivre sa ligne de conduite.
Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est.
Moi, je trouve ça très très beau. Pas de corruption, pas de...
Mais le chemin est rude.
Très bien, très bien.
Eh bien, écoutez, j'espère que, chers auditeurs, que je vous ai donné envie de lire ce livre. Et si vous le voulez, il doit en rester encore quelques-uns aux moutons électriques. Donc, ils ont un site internet. Hein, regardez les moutons électriques, Steve Ditko, et vous trouverez.
Oui, parce qu'aux moutons électriques, en plus, il y a d'autres.
Ah, il y a plein de très bons bouquins. Oui, très bon éditeur, les moutons électriques. Franchement, si vous ne connaissez pas, allez sur leur site internet.
Donc, oui, c'est bien aussi d'y aller pour les moutons électriques.
Aussi.
Autant que pour l'ouvrage.
Eh bien, on va se quitter là, Sandra, jusqu'à une prochaine émission où tu nous présenteras une de tes lectures.
Oui, pas de souci. Qu'est-ce qu'on fait? On recommence les apéros, là, après ou
Ouais, on peut peut-être passer à l'apéro.
C'est une blague, c'est vrai. Notre ancienne émission. Enfin, d'accord. Très bien, Dominique.
Allez, merci. Bonne soirée et à bientôt. Au revoir.
Au revoir.